L'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce présent ce midi avec des températures qui vont être caniculaires cet après-midi puisque nous aurons dans notre région entre 37 et encore 38 degrés. N'oubliez pas, si vous êtes une personne fragile, n'oubliez pas surtout de boire et de rester dans un endroit frais si vous, bien sûr, vous le pouvez. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas, soit appelez vos voisins, soit appelez les secours. Merci de votre fidélité à ce présent ce midi, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Dans quelques instants, ce sera le Père Michel Dauban qui sera en notre compagnie. C'est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et bien avec lui, on parlera des pèlerinages à Lourdes. Il sera au micro de David Torchala. Et puis, hier, j'étais avec grand plaisir à la fête de Saint-Pied-de-Bigorre. Saint-Pied-de-Bigorre entre deux régions, deux département. Vous verrez que pour le maire, c'est pas facile tous les jours de faire avancer des dossiers lorsqu'on est sur deux régions, deux départements et deux agglomérations, entre l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et celle de la communauté de communes du Pays de Naï. Ben, vous verrez comment il se débrouille, et il se débrouille pas mal du tout. Et puis après, eh bien aujourd'hui, nous allons expliquer un mini séisme religieux qui s'est déroulé au Cameroun il y a à peine quelques semaines, lié à la grâce de Lourdes. Mathias Terrier, dans le magazine De Passage à Lourdes, reçoit cette semaine le père Emmanuel Vaumont, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Voilà pour le sommaire, et tout de suite, place à l'actualité.
Bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire Cédric Jubilard. Selon l'un de ses avocats, il reconnaît désormais sa responsabilité dans la mort de son épouse Delphine, disparue dans le Tarn en décembre 2020. L'Occitanie entre dans un nouvel épisode de canicule. Jusqu'à 39 degrés sont attendus à Toulouse, tandis que les autorités appellent à la plus grande vigilance. Pour renforcer la lutte contre les feux de forêt, l'Aveyron dispose désormais d'un pélicandrome, une base de ravitaillement pour les bombardiers d'eau. À Toulouse, les lieux de fraîcheur municipaux resteront ouverts plus longtemps afin d'accueillir les habitants pendant les fortes chaleurs. Enfin, les Hautes-Pyrénées, le parc national poursuit son travail de médiation pour concilier le pastoralisme et la protection de la faune sauvage. Voilà pour les titres.
Merci beaucoup Clémence Roux, qui est donc élève à l'école du journalisme à Toulouse. Allez, je vous propose de retrouver tout de suite le père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On parle de pèlerinage. Il est au micro de David Torchala.
Présence dans la cité mariale 96.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on parle de pèlerinage, chacun a son image. Pour certains, c'est un long chemin parcouru avec le bâton de pèlerin à la main, le sac à dos en direction de Saint-Jacques. Pour d'autres, c'est le grand voyage d'une vie vers la Terre Sainte. Et puis, pour beaucoup de catholiques, le mot pèlerinage évoque immédiatement Lourdes. Mais au fond, de quoi parle-t-on vraiment lorsque on évoque le pèlerinage de Lourdes? C'est ce que nous allons évoquer avec vous, Père Michel Dauban, bonjour.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire, et nous nous questionnons évidemment sur cette question à l'heure où nous commémorons, il y a 160 ans, deux événements marquants. D'abord, l'arrivée des premiers trains de pèlerinage à Lourdes, l'inauguration de la gare, et puis l'inauguration de la crypte, le premier culte à la grotte, en fait quelque part, le début de l'histoire de Lourdes. Père Michel Dauban, Lausanne, il y a 160 ans, ce train qui arrive à Lourdes va bouleverser l'histoire de la ville. Les pèlerins vont arriver en nombre. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Ça évoque effectivement ces récits des pèlerins qui sont arrivés depuis la grotte et qui, remplis de foi, d'émotion, de joie, descendaient par le boulevard de la grotte vers effectivement cette grotte de Massabielle en procession, avec les bannières, avec les chants qui accompagnaient cette procession depuis la gare. Et c'est impressionnant parce qu'aujourd'hui, on a perdu cette dimension-là. Nous processionnons et c'est très très beau, mais à l'intérieur du sanctuaire et pas dans la ville. Donc, on imagine l'enthousiasme de ces premiers pèlerins. Je me permets de rajouter, alors bien des années plus tard, un souvenir personnel, puisque je suis venu en tant que brancardier à Lourdes avec mon diocèse, le diocèse de Montauban, il y a maintenant un certain temps, même s'il n'y a pas 160 ans évidemment, et je garde un souvenir vraiment fort de ces pèlerinages par le train, avec cette constitution des wagons, avec les malades à embarquer depuis la gare de Montauban, et ce long déplacement, ce voyage qui durait pas très très longtemps, puisque Montauban n'est quand même pas très très loin, mais de fait avec cette ambiance des malades, des hospitaliers qui se déplaçaient dans le train, avec l'évêque qui passait pour saluer absolument tout le monde, et cette joie, cette sonorisation avec la prière, avec les chants, c'était une ambiance particulière et le pèlerinage en fait commençait depuis le départ. Et je pense que ça c'est quelque chose d'une intuition forte pour tous ceux qui ont la chance de venir encore en train au lieu de venir en voiture ou en bus. Alors c'est différent, hein, c'est beau aussi, hein, mais c'est pas la même chose.
Et évidemment, c'est pas seulement une histoire, parce qu'aujourd'hui encore, donc des pèlerins viennent en train dit spéciaux. Vous nous direz quels sont la différence avec d'autres trains, mais pour autant, c'est pas un chemin si simple que ça pour arriver jusqu'à Lourdes.
Bah, le train spécial, c'est vraiment le train qui est affrété spécialement pour le pèlerinage, et il n'y a que des pèlerins qui viennent à Lourdes. Alors, c'est pas si simple parce qu'il se rajoute au trafic ordinaire, et donc de fait, c'est évidemment programmé, anticipé longtemps à l'avance avec la SNCF, et cela veut dire que c'est pas forcément un train prioritaire, ça veut dire qu'il s'agit parfois d'attendre un certain temps dans telle ou telle gare, ça veut dire que il y a un aménagement particulier de ce train, mais c'est aussi ce qui fait son originalité.
On parle de ce pèlerinage très populaire, de toutes ces foules qui arrivaient, en tout cas, il y a 160 ans. Aujourd'hui, que reste-t-il, en tout cas, de cette ferveur ? Ma question, c'est, est-ce que les pèlerins d'hier ressemblent-ils encore aux pèlerins d'aujourd'hui ? Comment voyez-vous cette foule, tout ce peuple se rendre à la grotte de Massabielle aujourd'hui ?
Les pèlerins sont les mêmes, et l'enthousiasme d'arriver à Lourdes, que ce soit train, en avion, en bus ou en voiture est le même, et évidemment ça se manifeste pas de la même manière. Là aussi, le fait d'arriver en train lorsqu'on arrive par la ligne de Bordeaux et de passer devant la prairie, devant la grotte, et déjà de réciter un Je vous salue Marie, ça y est, c'est déjà l'ambiance du pèlerinage qui fonctionne, et on est déjà dans ce pèlerinage. Donc cette ferveur, elle est intacte, elle se concrétise différemment, mais je pense que rien n'est perdu de cette joie et de cette importance pour bien des pèlerins, jeunes ou moins jeunes, malades ou bien portants, de venir en pèlerinage à Lourdes.
Aujourd'hui, au regard de la fréquentation globale du sanctuaire, ces pèlerinages représentent 10 à 15% de la fréquentation globale. Est-ce que aujourd'hui, finalement, le pèlerinage est-il toujours à la mode ? Est-ce qu'on continue de venir comme ça ? Pourquoi cette baisse ?
À la mode, je ne sais pas s'il faut être à la mode d'ailleurs, mais de cette manière, non, on pourrait dire que non, c'est pas du tout à la mode. Je pense que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est catholique, lorsqu'on est pèlerin de Lourdes, on assume volontiers d'aller à contre-courant d'un certain nombre d'évolutions qui sont pas toutes absolument merveilleuses et qui tiennent au fait de vouloir absolument aller aux sources de la foi en tout cas de cette piété mariale qui a tant d'importance pour nous. Donc non, on n'est pas à la mode lorsqu'on vient un pèlerinage à Lourdes, mais on l'assume, on en est heureux, et la mode n'a pas à être un diktat qui peut fondamentalement vraiment ne pas nous aider du tout, au contraire.
C'est vrai que la consommation dite un peu touristique aujourd'hui est tournée sur l'individuel. On va seul sur son téléphone, son ordinateur pour réserver une chambre d'hôtel, un billet de train le moins cher possible en anticipant. Pour autant, on se rend toujours à Lourdes. Est-ce que le pèlerinage, finalement, quand il est vécu seul, est différent de celui qui est vécu de manière organisée, portée par un groupe ?
De toute façon, quelles que soient les modalités de notre pèlerinage à Lourdes, il y a toujours de multiples moments où on est invité à dépasser notre individualisme et à rejoindre un groupe, une communauté, une foule. Donc, pas d'inquiétude, parce que ça se passe bien, que ça fonctionne très bien. On a envie de participer à la procession mariale. On a envie d'aller à la messe internationale. Alors après, c'est une lutte tous les instants, parce que il y a même le service de la communication du sanctuaire qui a mis en place un nombre d'applications pour que on puisse regarder son téléphone, et y compris parfois pendant des temps qui normalement sont pas faits pour ça, mais c'est aussi la communication, donc il faut faire avec.
C'est vrai que l'autre se visite pas comme tout monument historique, on n'est pas là seulement pour faire des photos. Comment peut-on rejoindre aujourd'hui, vous venez de parler des applications qui sont un moyen, mais comment on arrive à favoriser quand même la rencontre, l'échange avec toute cette foule de pèlerins aussi divers qu'elle est aujourd'hui?
L'ouverture du cœur, si tant est que l'on soit fermé lorsqu'on arrive dans le sanctuaire, ce qui reste à prouver, mais cette ouverture, elle se fait très naturellement et très spontanément. C'est-à-dire qu'on va entrer dans le sanctuaire, si on ne le connaît pas, on va déjà s'adresser à un centre d'information, on va être invité à dire nos motivations, ce que l'on veut particulièrement voir, et de fait, ce que l'on veut voir va assez vite se transformer en une expérience qu'on n'avait pas forcément vécue, qu'on n'avait pas forcément pensé de vivre, et qui va se faire tout spontanément. Et l'ouverture, elle se fait avec la rencontre d'autres, y compris d'autres que l'on ne connaît pas. Et de fait, on va en être transformé et entrer dans un moment qui va être celui du témoignage direct, en parole, en geste, avec un soutien à telle ou telle personne qui a du mal à marcher pour aller vers la grotte, pour aider à pousser une voiture bleue avec un malade à l'occasion d'une pente qui est relativement importante pour l'hospitalier qui est là, et avec un sourire sur le visage et une joie d'être là qui va se faire spontanément. J'allais dire, il n'y a pas de difficulté à s'ouvrir dans le sanctuaire, si tant est, une fois de plus, que l'on soit fermé en y arrivant.
Cette année marque aussi les 160 ans du départ de Bernadette pour Nevers, son départ de Lourdes. À cette époque, les pèlerins étaient déjà nombreux, hein, on a évoqué, hein, la naissance des pèlerinages et du sanctuaire aussi lui-même. Est-ce qu'on peut dire que Bernadette a quitté la ville pour échapper quelque part aux pèlerins ?
Alors, oui et non, en fait, oui, parce que elle a voulu embrasser la vocation religieuse qu'elle a patiemment discernée, et donc vivre une vie de service des malades et des personnes âgées, et y compris des plus atteints, dans une quiétude qui n'était plus celle de Lourdes. Donc oui, il y a bien le désir de fuir d'une certaine manière Lourdes, mais en même temps, sa vocation l'a renvoyée au Seigneur et au commandement de l'amour de ses frères. Donc elle n'a absolument pas fui le monde, au contraire, elle l'a aimé en suivant le Christ. Alors après, j'ai envie de dire avec humour que si elle a voulu fuir les foules, eh ben c'est raté, parce que aujourd'hui Bernadette n'a jamais été autant aimée, ses reliques n'ont jamais été autant adorées, et pas uniquement à Lourdes, mais dans toute la France, dans nombre de pays et y compris dans divers continents. Nous sommes en train de préparer une grande mission avec ces reliques qui se déroulera à partir de septembre aux États-Unis. Bref, elle a une notoriété qui la met en contact avec des pèlerins du monde entier.
Bernadette disait toujours depuis Nevers qu'elle se rendait en esprit à la grotte de Lourdes chaque jour. C'est vrai qu'il y a cette distance. Alors aujourd'hui, Bernadette, c'est peut-être si c'est qu'il y a une distance entre le ciel et la terre, mais en tout cas, chacun a une distance avec Lourdes, géographique, ou parce qu'on est empêché de pouvoir venir, etc. Comment chacun à distance peut continuer de vivre la grâce reçue pendant un pèlerinage ou finalement de vivre de la grâce du lieu lui-même sans jamais être venu? Comment on arrive à entretenir ce lien avec Lourdes sans jamais pouvoir s'y rendre toujours?
Alors, c'est vrai que lorsqu'on n'est jamais venu à Lourdes, aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions pastorales qui font que on peut être rejoint là où l'on est, avec aujourd'hui l'exemple de ce qui se vit sur le continent américain, aux USA en particulier, avec des pèlerins qui sont déjà venus à Lourdes et qui font vivre Lourdes, qui font vivre l'expérience de Lourdes sur place, avec des liens tout à fait réels avec la grotte, avec la vue de la prière à la grotte, avec le geste de l'eau, avec l'eau que l'on peut recevoir dans ses mains pour s'en laver, boire cette eau. De fait, il y a un lien, le monde est universel et ça se vit aussi par rapport à cet esprit de Lourdes. Et puis ensuite, je pense qu'il y a aussi, pour ceux qui ont eu la chance, la grâce de venir à Lourdes, il y a aussi ce fait que de toute façon, je crois qu'on n'est plus jamais quand on est venu à Lourdes comme on était avant. C'est-à-dire que, de fait, on va vivre quelque chose de l'esprit de Lourdes qui nous rapproche du Seigneur, qui nous rapproche de sa mère, de la Vierge Marie, et qui nous rapproche de nos frères et sœurs, et en particulier des frères et sœurs malades. Et ça, c'est très tangible, et on l'entend, on le sent très clairement dans les témoignages aussi multiples soient-ils, et parfois aussi éloignés soient-ils.
Merci Père Michel Dauban.
Je vous en prie.
Présence à l'Albinque 92.5.
Les fêtes de village, c'est toujours l'occasion de rencontrer des personnes. Et là, j'ai deux dames qui sont devant moi, toutes les deux fraîchement élues. Pour une, c'était déjà une habitude, pour l'autre, un peu moins. Je vous laisse vous présenter.
Oui, alors là, je suis Marie-Pierre Toustard. Je suis à Saint-Pied-de-Bigorre et c'est mon deuxième mandat. Et je suis première adjointe au maire.
Et juste à côté de vous, vous avez une autre personne qui vient de Bartrès.
C'est ça, tout à fait. Donc c'est moi, je m'appelle Sabrina Havard. Donc je suis juste élue cette année et je suis adjointe. Du coup, je suis élue à Bartrès, conseillère municipale.
Conseillère municipale, oui, à Bartrès.
À Bartrès, tout à fait.
Pour vous, c'est la première fois. Est-ce que vous avez imaginé un jour vous retrouver élue de votre village?
Alors non, pas du tout. Je m'investis dans la vie de mon village, mais être élu, non. J'ai suivi en fait Marcel qui est venu me chercher et du coup on a monté une belle équipe et là on a tout à apprendre et on espère faire plein de belles choses.
La parité est devenue obligatoire pour les communes. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose d'avoir, est-ce que c'est d'abord été difficile, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir cette parité homme-femme au sein des conseils municipaux, Madame Toustard?
Alors, difficile pour notre cas, non. On n'a vraiment eu aucun problème à trouver des personnes pour constituer notre équipe hommes et femmes. Donc, pas de difficulté. Bonne chose, oui. Je déplore simplement que l'on soit obligé de passer par une obligation de parité pour que les femmes puissent trouver leur place dans nos institutions, dans nos mairies, dans nos conseils. Et voilà, c'est juste un petit peu dommage, mais non, pas de difficultés, et c'est quelque chose de très positif.
Mais je crois que du côté de SMP, c'était déjà une chose qui était en route. Hein.
Oui, tout à fait. Nous, c'est pas nouveau pour nous. Donc, le mandat précédent, la parité existait déjà dans l'équipe, donc pas de problème.
Et pour vous, c'est une nouveauté sur Bartrès, les petites communes, il fallait la parité. Est-ce que ça a été difficile pour Marcel de trouver autant d'hommes que de femmes?
Non, je pense pas, franchement. Non, après, c'est bien d'avoir la parité. Oui, non, je pense pas qu'il y ait du trop de difficultés. Mais après, je trouve que c'est une bonne chose, oui. Après, c'est vrai, c'est dommage aussi de devoir que ce soit une obligation. Ça serait, voilà. Mais je pense qu'on n'a pas eu trop de soucis.
Pour vous, il y avait deux listes sur le village. Ça, c'est peut-être une nouveauté sur Bartrès. Voilà, c'est le challenge. Des choses nouvelles, des têtes nouvelles aussi.
Oui, tout à fait. Alors, dans notre équipe, on est vraiment presque tous. C'est la première fois. Donc oui, c'est des têtes nouvelles. Ça a permis de challenger, de réunir les gens. On a fait des réunions. Donc c'est vrai que ça, du coup, le village s'est investi pour l'une ou l'autre liste. Donc je trouve que c'est intéressant aussi.
Pour vous, Mme Toustard, vous, c'est un peu, on ne change pas, on reste sur une équipe qui gagne. Ça fait quelques années maintenant que Jean-Claude Bocquest est maire de Saint-Pé.
Oui, tout à fait. Alors Jean-Claude, ce n'est pas son premier mandat en tant que conseiller et encore moins en tant que maire. Par contre, pas mal de renouvellements cette année. On a renouvelé la moitié de l'équipe. Donc oui, effectivement, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on s'entoure de personnes qui ont de nouvelles idées, de nouveaux challenges qui arrivent. Et bon, quelque part, ça constitue un groupe particulièrement vivant, avec des personnes qui viennent d'horizons différents, avec des idées nouvelles. Et notre rôle à nous au bureau, enfin au maire et aux adjoints, c'est de mettre en route toute cette belle équipe pour en tirer le meilleur pour le bien de la population, pour la communauté et pour notre village. Mais je suis pas inquiète. Les idées, on les a, nous les avons tous. Il faut juste maintenant les mettre en ordre et on a 6 ans, voire 7, puisqu'on part sur un mandat de 7 ans, pour mettre en musique tout ça.
Alors, en mettant en musique, quels sont les projets phares, là, rapidement, qui seraient prévus pour cette année 2026 et 2027?
Alors, sur Saint-Pé, on a un projet important qui a démarré un petit peu avant la fin du précédent mandat. On est en train de construire une maison de santé en utilisant un bâtiment dont nous sommes propriétaires, que nous allons rénover et de telle façon que plusieurs professionnels de santé, médecins, sages-femmes, orthophonistes, psychologues, puissent venir s'installer de façon pérenne ou ponctuelle sur la commune. Donc ça, c'est un projet qui va voir le jour rapidement et normalement, nous sommes en 2026, ouverture de la maison de santé en 2027.
Voilà, donc ça c'est un projet à court terme, hein, qui est déjà pensé depuis quelques mois.
Tout à fait, c'est un projet qu'on réfléchit depuis presque un an. Et on travaille énormément en partenariat avec le docteur Sommet, qui est médecin ici à Saint-P. Donc effectivement, ça c'est un projet à court ou moyen terme, qui représente un investissement quand même très important. Après, plein d'idées pour d'autres projets. On réfléchit également à la rénovation de l'ancienne piscine de Saint-P.
Ah oui.
Pas pour en faire une autre piscine, ça c'est clair, mais bon, on réfléchit à la rénovation de ce site. On a pas mal de projets également en lien avec la communauté de communes et notamment la véloroute qui doit passer ici à Saint-Pé.
Qui tient vraiment à cœur de Jean-Claude Bocquest. Hein.
Tout à fait, voilà. Donc là, il y a quelque chose à faire, on y travaille. On a pas mal de travaux également d'embellissement de la commune au niveau de la place, au niveau de la voirie. Un projet aussi, mais bon là je préférerais laisser le maire en parler, notamment sur le pont des grottes avec le Gave pour les pratiquants en eau vive. Voilà, donc les projets ne manquent pas du tout.
Très bien. Alors, Bartrès en deux mots aussi.
Alors, Bartrès en deux mots, parce que du coup, c'est quand même un peu moins grand. Donc, Bartrès, on a surtout envie de rassembler rassembler tous les habitants. Donc, on a projet là rapidement en septembre pour un café éphémère, qu'on ouvrira une fois par mois pour réunir les gens. Après, on a aussi envie de valoriser un petit peu le village, notamment avec nous, on a quand même Bernadette.
Vous avez une histoire.
Voilà, on a toute une histoire. Donc là, on va essayer de le valoriser et on essaie de faire venir le pape qui fasse un petit crochet par Bartrès.
Oula, ambition.
Voilà, on est nouvelle équipe, on y croit. Donc voilà. Donc voilà, en un mot, en plus, c'est ça. C'est surtout que les gens apprennent à se connaître dans les villages et que ce ne soit plus des villages dortoirs en fait.
Ouais, voilà. Merci à toutes les deux pour ce petit interview impromptu. C'est la fête de votre ville. On est à Saint-Pé, et c'est toujours un moment aussi convivial entre les élus, hein, où vous êtes un peu tous réunis. C'est aussi une façon de se rencontrer, de discuter différemment.
Tout à fait. Et c'est vrai que, notamment maintenant qu'on vient de passer par une élection municipale, on ne se connaît pas forcément, oui, notamment avec les nouvelles équipes. Donc c'est une super occasion, et je pense qu'on a énormément de choses à mutualiser aussi entre communes, tant sur le plan des idées que sur le plan financier aussi. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est une très 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 belle opportunité. Il fait beau à Saint-Pé, on a souvent le beau temps malgré ce que tout le monde peut dire. Donc voilà. C'est parfait.
Merci beaucoup. Merci. Jean-Claude Bourquest, quel plaisir. On est dans votre village, c'est la fête locale. J'ai eu la chance d'avoir votre première adjointe il y a quelques instants au micro. C'est la fête de votre village. Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. On a parlé de projet. Un projet phare, c'est la maison de santé que vous voudriez voir arriver à court terme.
Oui, tout à fait. La maison de santé est en route. Et d'ailleurs, nous avons lancé le projet il y a un an. Là, nous avons déjà fait réaliser les plans, toutes les études, en collaboration et très étroite avec les médecins et le personnel de santé qui intégreront cette maison de santé. Et nous sommes là actuellement sur l'ébauche des financements et nous sommes en attente du permis de construire. Il semblerait qu'il soit positif assez rapidement.
Ah, ouais. Alors vous avez tout le sourire pour l'annoncer aujourd'hui à vos concitoyens.
Bon, la fête de Saint-Pé, c'est pas vraiment l'endroit où j'annonce les projets, c'est plutôt l'endroit où je mets en avant les gens qui ont travaillé. C'est le cas de nos jeunes du comité des fêtes. On a un comité des fêtes fantastique, ils sont une quarantaine pour un village de 1200 habitants, tous issus de Saint-Pé. Et c'est pour nous une grande fierté de voir que ces jeunes s'engagent pour notre village, et peut-être ils prendront la suite après derrière nous, parce que nous, certains d'entre nous, on a tout commencé comme ça, par le comité des fêtes. Donc,
c'est une porte d'entrée vers la chose la chose municipale, la chose publique.
Oui, ça peut être, je les chambre souvent avec ça, leur disant, voyez, nous on a commencé comme ça, on a fini par faire de la politique. Des fois c'est pas très très bien,
mais la politique, c'est pas forcément un gros mot.
Non, nous, chez nous, c'est la petite politique, on s'occupe de tout le monde. On est souvent des humanistes qui voulons que tout le monde soit heureux, et ces jeunes ont un peu cet esprit, et franchement j'en suis très fier et très heureux.
Bilan, en quelques mots, de cette fête de 2026.
Oui, non, c'est une fête qui s'est justement très très bien passée. On a eu quelques soucis, comme vous le savez, souvent avec des gens du voyage, avec ceux qui sont venus, bien sûr, s'installer quelques jours avant la fête sur un endroit où les jeunes avaient organisé un parcours de pétanque, un concours de pétanque. Voilà, il a fallu batailler, s'agacer un peu quelques jours avant. C'est vrai qu'on n'en a pas assez de soucis dans nos mairies sans aller au dernier moment régler ces problèmes. Voilà, mais ça fait partie du lot du quotidien du maire, d'un maire.
Du maire. C'est pas votre première élection, hein. Vous avez été réélu comme il faut. D'ailleurs, il n'y avait aucune liste devant vous, donc ça facilite quand même pas mal les choses. Vous êtes aussi vice-président de l'agglomération. Vous avez en charge les travaux, je crois.
Oui, tout à fait. Je suis troisième vice-président de l'agglomération, en charge des travaux et des relations avec les autres interco, c'est-à-dire l'agglo de Pau. Je siège dans un comité d'aide aux entreprises qui travaillent de Biarritz, on va dire, du Pays Basque jusqu'aux Hautes-Pyrénées, où on travaille sur le soutien à nos entreprises, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Véloroute, en deux mots, toujours un projet que vous voyez qui revient régulièrement, mais vous y tenez, ça avance?
Ah oui, alors la véloroute, vous saviez, on avait eu un problème d'éboulement sur une partie de la véloroute que nous avons réglé dernièrement, et là nous avons relancé pour faire un parcours sur un endroit ou une partie qui ne s'éboulera pas, où nous attendons l'accord des riverains pour relancer les travaux, mais j'espère que ce sera fini avant la fin de l'année.
Encore donc de beaux projets et de belles choses, la maison de santé, véloroute.
Oui, il y a aussi, on a fait l'acquisition pour l'euro symbolique, le département nous a cédé la base HPSN, où nous justement avec l'agglo...
HPSN c'est quoi pour les gens qui...
Haute-Pyrénées Sport Nature, c'est une base où on fait du kayak, du rafting, où viennent s'entraîner les sportifs de haut niveau de kayak, les gens qui se préparent pour les championnats du monde, les coupes... Coupe d'Europe et voilà, qui était un peu sous-exploité, on va dire, par le département. Et nous avons souhaité faire l'acquisition avec l'agglo et monter derrière un organisme, une ESPL par exemple, pour arriver à dynamiser ce site qui est un site exceptionnel.
Oui. Et donc c'est aussi un projet en cours.
Oui, un projet en cours et qui va être lié avec l'achat du pont des Grottes de Bétaram, vous saviez, là où sur la sortie des Pyrénées-Atlantiques, là où on rentre sur le pont qui va aux Grottes de Bétaram, il y avait une station-service avec un restaurant, 4 hectares inexploités là aussi, et nous avons avec la communauté commune du Pays de Naye et l'agglo fait l'acquisition de ce site, nous sommes en cours. Il nous reste que quelques éléments de dépollution de l'ancienne station et nous faisons l'acquisition de ce site pour y développer un projet intercommunal, interrégional, interdépartemental, puis c'est sur deux régions, c'est sur deux agglos et sur deux départements.
Voilà. C'est facile ça? Ou ça complexifie les choses?
Oui, ça n'aide pas, ça n'aide pas les choses.
Et, et le projet final, ce sera quoi?
Le projet final, ce sera vraiment un bassin adapté à tous ces sportifs, la pratique du sport d'eau vive pour tout le monde, et un aménagement des parkings et d'une structure sur place d'accueil. Et pour nos kayakistes, un endroit où ils peuvent nettoyer leur kayak, se doucher après les compétitions, un lieu d'accueil, un lieu de compétition avec un spot où les juges peuvent juger depuis un peu plus haut. Voilà, c'est tout un côté technique du monde du canoë-kayak.
Parce qu'on oublie souvent que les Grottes de Bétaram, elles se situent à...
Alors c'est surprenant parce que des fois, même au niveau de la région, ils ne savent pas, même plus près, ils ne savent pas que les Grottes de Bétaram sont sur Saint-Pé-de-Bigorre et bien dans les Hautes-Pyrénées et bien dans l'Occitanie. Nous ne sommes pas en Aquitaine, une partie. Alors une partie des grottes, une partie du parcours est moitié sur l'Aquitaine, moitié sur l'Occitanie et les Hautes-Pyrénées. Mais le siège social est bien à Saint-Pé-de-Bigorre. Voilà. D'accord. C'est un outil bigourdant et qui fait autant d'entrées par an que certains sites qui sont très très mis en avant. Et il faut savoir que Bétaram font autant d'entrées et c'est un joyau. Et quand on est en période de canicule, il vaut mieux aller aux Grottes de Bétaram que sur certains sites.
Climatisé naturellement
à 16 degrés.
Merci beaucoup Jean-Claude Bocquet. Je vous laisse à vos administrés qui vous attendent pour le discours. Un grand merci à vous.
Merci encore.
Présence à Pau 96.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir pourquoi le Cameroun a vécu au mois de mai-juin 2026 un mini-séisme religieux lié à la grâce de Lourdes. Père Emmanuel Mvomo, bonjour.
Bonjour Mathias. Merci de l'invitation.
Vous êtes chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Depuis 2022, vous êtes fils de l'Immaculée Conception, originaire du diocèse ou de l'archidiocèse de Yaoundé au Cameroun. Mmh. Et vous avez cette responsabilité au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes d'être l'aumônier de la famille Notre-Dame de Lourdes, vous nous en parlerez, et responsable des missions. Et il se trouve que vous vous êtes dit il y a quelque temps, mais pourquoi je n'initierais pas une mission dans mon propre pays, qui comprendrait, pourquoi pas, mon propre diocèse. Je commençais en disant que le Cameroun a vécu un mini-séisme religieux. D'abord, c'est un titre d'une journaliste, ça. Mais vous vous y retrouvez, là, dans ce titre de journaliste.
Oui, mini-séisme, il faut le dire. Je pense que la trouvaille, elle est très belle. Parce que ce qu'on a vécu au Cameroun, il faut dire que nous avons travaillé sur ce projet à partir de cette idée que voilà, je suis responsable des missions, je fais partie des reliques de Sainte Bernadette dans le monde entier, mais voilà, pas encore au Cameroun, pas encore en Afrique. Pas tellement seulement parce que c'est mes origines, mais parce que on voit la religiosité dans le monde, on voit la spiritualité mariale dans le monde et elle est très vivace et très vivante en Afrique. Et je voulais aussi que cette partie du monde, un peu comme on pense aussi à l'Asie et d'autres, qui voient Lourdes de loin, qui vivent pleinement la spiritualité de Lourdes, mais qui n'ont pas toujours le moyen de venir. Parce que venir en France, venir à Lourdes, voilà, ça coûte ce que ça coûte. Il fallait aussi permettre à ces peuples-là de communier avec leur mère, de communier avec la Vierge Marie. C'est ainsi qu'est venue cette idée, et je peux vous assurer que ça a été vraiment un mini-séisme. Pourquoi ? Parce que, d'abord, harmonieusement, on se retrouve pratiquement en fil après le pape. Je vous rappelle que le pape était au Cameroun en avril, et pendant qu'on travaillait le projet, on ne savait pas qu'il y avait une visite du pape qui était prévue au Cameroun. Donc le pape arrive au Cameroun la deuxième moitié d'avril, il s'en va avec ce que cela a provoqué, et puis deux semaines après pratiquement arrivent les reliques de Sainte Bernadette, et avec la présence de Notre-Dame de Lourdes. Le Cameroun est un pays qui a été confié à la Vierge Marie par les premiers missionnaires qui sont arrivés. Le premier lieu où ils ont construit une église, c'est Marienberg, c'est-à-dire la montagne de Marie, il me semble que c'est en allemand. Et donc le pays a été confié à la Vierge Marie. Et recevoir cette visite de Notre-Dame de Lourdes a vraiment été un séisme spirituel, avec des émotions spirituelles et même humaines, voilà, difficilement vécues. Si je vous dis qu'une dame qui me dit « Mon père, même le jour de mon mariage, je n'ai pas ressenti ce que je ressens aujourd'hui », ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là que je me retrouve pleinement dans cette expression de mini-séisme qui a bouleversé la vie d'un pays pendant 40 jours, on ne parlait que de ça.
Nous allons, par le détail, enfin autant que faire se peut, oui, parler de ce qui s'est vécu. Mmh. Vous connaissez cette phrase célèbre du commissaire Jacomet à l'adresse de la petite Bernadette. Bernadette, mmh, il est agacé, tu fais courir le monde. Parce qu'elle fait affluer, par ce qu'elle dit de ses rencontres à la grotte, elle fait affluer le monde à Lourdes. C'est ce qui s'est vécu durant 12 étapes au Cameroun. Avant d'entrer dans la deuxième partie de cette émission, dans l'aspect plus organisationnel, hein, de ce qu'est une mission Notre-Dame de Lourdes, oui, faites-nous vivre quand même quelques-unes de ces 12 étapes. La petite Bernadette est allée à la rencontre, à travers les reliques, des écoles, donc des jeunes, des malades, des personnes qui sont en situation de handicap, des personnes qui sont même en prison.
Oui, la beauté de ce pèlerinage était celle-là, c'est-à-dire de ne pas se contenter des chapelles, des églises, des paroisses, des sanctuaires, mais essayer d'aller vraiment rencontrer la misère humaine, parce que on sait qu'à Lourdes, on le sait, la Vierge même vient à la rencontre de la misère à travers Bernadette. Et moi, j'ai été très touché du fait que, en arrivant dans un hôpital, que le directeur nous dise, mon père, allez dans les chambres, et trouver, voir le rayonnement dans les yeux d'un malade qui a l'opportunité inattendue sur son lit de malade de toucher les reliques de Sainte Bernadette et de prier un peu avec moi et peut-être même de me partager sa situation. Moi, c'est des moments inoubliables. Mieux encore, la prison de Ngambé. Alors, Ngambé, c'est dans le littoral du pays. C'est une partie du pays qui a connu un peu le maquis à l'époque de la colonisation. C'est un peuple, on va dire un peu rebelle, qui s'est réfugié dans la forêt, qui a lutté contre le colon. Et là, il y a cette prison qui était une prison assez particulière. Quand on disait qu'on vous envoie dans la prison de Ngambé, c'est que, voilà, c'était un peu difficile. Et le responsable de cette prison a ouvert ses portes. Il a ouvert ses portes, nous sommes allés, j'ai pu faire la catéchèse à ces prisonniers et célébrer la messe avec eux. Et là, j'ai été très touché du fait qu'ils aient apprécié une expression. Maintenant, il y a la Coupe du Monde, j'ai surfé là-dessus, je leur ai dit, voilà, il y aura la Coupe du Monde bientôt. Est-ce que vous connaissez l'expression « remontada » Ils disent, ben oui, quand tu es mené et que tu peux faire une remontée, ben voilà, vous êtes ici pour préparer votre remontada. Et c'est ce que Bernadette vous apporte comme message. Ne pensez pas que tout est fini, vous pouvez revivre, vous pouvez égaliser et vous retrouver vainqueur dans la vie. Et c'est un message qui a été tellement bien accueilli, et je dis, c'est ça, Bernadette qui fait courir les foules, mais... pas une catégorie de foule, mais vraiment aller jusqu'à ceux-là qui ont retrouvé la joie en voyant simplement la petite Bernadette et Notre-Dame de Lourdes devant eux.
Cette petite sainte Bernadette, qui n'est pas quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui n'est pas une théologienne, qui a une foi qu'on pourrait qualifier de populaire, d'accessible à tous, vous sentez que c'est cette simplicité qui rejoint tout un chacun ? Y compris à travers cette pérégrination.
Effectivement, c'est cette simplicité. Et dans ces catéchèses, ici, mais surtout dans ces missions, j'avais l'habitude de prendre... Je demandais pour commencer, qui s'appelle Bernadette ici ? Une dame bien, voilà. Qui a 14 ans ici ? Et je fais la catéchèse en tenant en main cet enfant de 14 ans, lui disant, tu vois là, c'est ton âge, et c'est toi. Et même du point de vue géographique et culturel, je leur disais que moi, l'histoire de Bernadette me touche parce que Bernadette n'a pas croisé la Vierge au supermarché, c'était pas au stade de foot, elle allait chercher du bois. Ce que nous faisons encore en Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a encore des enfants qui se lèvent le matin, qui vont dans la forêt chercher du bois. Et pour leur dire que même ce geste simple, banal, stupide, que nous tous nous faisons, moi je l'ai fait, c'est en ce moment-là que Bernadette a eu cette grâce-là. Donc pour dire que, quelle que soit ta situation, ce que tu fais avec cœur peut toujours être un lieu de grâce. Et l'autre point très important, c'est que je leur dis, et je l'ai même mis par écrit, on nous dit que Bernadette avait son chapelet dans la poche. Cela veut dire que c'est ses parents qui le lui ont donné. Cela veut dire que la famille Soubirous avait une histoire de prière. Nous la connaissons, ils étaient très engagés dans la prière. Et c'est encore le lieu, voilà, de parler aux familles africaines, aux familles du monde entier que... ce que nous enseignons à nos enfants, les petits cadeaux que nous leur faisons sont une semence de grâce. Bernadette n'a pas arrivé à la grotte, elle a juste fouillé sa poche, ça veut dire qu'elle avait son chapelet, ça veut dire que c'était une habitude, et ça veut dire que l'enseignement familial et la pratique familiale est très importante pour l'éducation et pour toute personne. Donc vraiment l'humilité, oui. Et là, c'est le lieu favorable, le lieu idoine pour parler de l'humilité, pas seulement de Bernadette, mais même de la Vierge, parce que voilà, dans cette vertu, les deux ont vraiment ce point commun.
Nous allons nous arrêter quelques instants, mon père, si vous le voulez bien. Je rappelle que nous parlons de cette pérégrination des reliques de Sainte Bernadette au Cameroun, qui s'est déroulé à travers des étapes et qui a permis, à travers des milliers de kilomètres, que Bernadette rende visite à tous ceux qui voulaient à un moment toucher du doigt un peu de la grâce de Lourdes, qui se vit aussi dans ce sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, où vous êtes, vous, chapelain, et vous êtes également responsable des missions et aumônier de la famille Notre-Dame de Lourdes. À tout de suite.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est le père Emmanuel Mvomo, qui est chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et qui nous emmène au Cameroun à travers cette très belle expérience vécue de la pérégrination des reliques de Sainte Bernadette en Afrique pour la première fois. Et au Cameroun, durant un mois et demi, pratiquement, durant lesquels Sainte Bernadette est allée à la rencontre des Camerounais qui le souhaitaient, des Camerounaises et des Camerounais qui le souhaitaient, pour faire vivre un peu de la grâce de Lourdes. Et cette pérégrination a donné lieu à ce que une journaliste, je crois, a nommé un mini-séisme religieux. Vous nous disiez, Père Mvomo, que le pape est venu au Cameroun en avril, en mai, Bernadette, avec son humilité, arrivé pour cette mission, et vous êtes venu comme prédicateur, comme catéchiste, en quelque sorte, porteur de ce message de Lourdes. Est-ce que, Père Mvomo, vous qui êtes à demeure dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, vous redécouvrez la grâce de Lourdes en allant justement en mission.
Effectivement, c'est, je pense qu'une telle mission porte beaucoup de fruits, y compris aux missionnaires que je suis. Je pense que la première leçon, c'est celle de se rendre compte que voilà, quand on est à Lourdes, y compris le chapelain, on est dans un automatisme. J'ai mon planning du jour, je dois faire ci, je dois faire ça. J'ai mon office qui est l'émission Notre-Dame de Lourdes, la famille, et peut-être des rencontres avec des personnes. D'accord, mais tout ceci devient une espèce d'automatisme. Or, lorsqu'on s'en va en mission, par exemple, lorsqu'on arrive dans un lieu, on laisse le curé et l'organisation locale se déployer. Et là, vous redécouvrez des choses. Vous redécouvrez la beauté, y compris même du message de Lourdes, dit par quelqu'un d'autre. Vous redécouvrez cette chaleur humaine autour de Sainte Bernadette et de la Vierge Marie. Je vais peut-être vous faire sourire. Moi, j'ai vu des hommes en tenue à l'aéroport embrasser le carton. Le carton qui portait la Vierge. Elle n'y était plus. C'est-à-dire qu'on a déjà enlevé la Vierge du carton, on l'a déjà installée et tout et tout. Et tu vois un homme en tenue d'une certaine catégorie aller embrasser ce carton. Et du coup, tu te dis, sa foi le fait dire, ce carton a porté la Vierge. Et moi qui suis à la grotte de Massabielle tous les jours, je passe déjà là comme un policier,
Trop rapidement.
Trop rapidement, on perd un peu de cela. Donc je dis, aller en mission me fait encore redécouvrir la valeur. Et tu te rends compte que oui, on semble le dire et le vivre à Lourdes, mais c'est lorsque vous allez en dehors de Lourdes que vous redécouvrez que Lourdes est vraiment considérée comme la capitale mondiale de la prière, la capitale mondiale de la dévotion mariale. Et c'est d'autres qui vous le redisent, qui vous le renvoient. Et je pense que je suis revenu de là, grandi aussi de cet enseignement-là.
Vous êtes fils de l'Immaculée, donc Lourdes, c'est chez vous aussi. Lourdes, où la Vierge s'est présentée comme l'Immaculée Conception.
Oui.
Vous nous parliez du message de Lourdes porté par l'humilité de Bernadette. Mmh. Et donc, c'est un message venu de la Mère de Dieu qui est porté par l'humilité et la petitesse de Bernadette.
Tout à fait.
Parmi ce message, il y a la dimension très compliqué parfois à comprendre, à la fois pénitentielle, et le fait que Bernadette, on l'empêche d'aller à la grotte et qu'elle y va malgré tout, et qu'il y a des difficultés, des impossibilités, tout paraît impossible. Et pourtant, on continue à croire.
Et pourtant, on continue à croire. Je pense que j'aime à le dire, qui est convaincu est convaincant. Bernadette a réussi à convaincre tout le monde parce qu'elle était convaincue. Elle était convaincue de ce qu'elle vivait. C'est son authenticité qui a réussi à faire plier tout le monde. Rappelez-vous le médecin qui vient vérifier la paume de main et qui finit par lui dire, ma fille, je ne sais pas ce que tu vois, mais je crois que tu vois quelque chose. Elle est tellement convaincue et linéaire dans tout ce qu'elle vit que, voilà, même les plus redoutables finissent par lâcher l'éponge que voilà. Je crois que c'est ce message-là qui jusqu'aujourd'hui porte dans le monde entier. Et comme vous dites si bien, elle n'a pas écrit. Je leur disais même au Cameroun que Bernadette n'a jamais pris l'avion. Son seul grand voyage, c'était Lourdes-Nevers. Mais la voilà qui prend l'avion aujourd'hui et va dans le monde entier parce que ce message qu'elle porte continue à être authentique et vrai parce qu'elle-même, elle l'a présenté de manière convaincue en disant que bon, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous dire. Donc, et c'est ça qui fait en sorte que jusqu'aujourd'hui, ce message est très porté et très convaincant pour tout le monde, surtout qu'il se base sur vraiment une histoire d'humilité et de simplicité. Et je pense que c'est ce qui est en droite ligne avec le message même de l'Évangile.
Et ce qui nourrit aussi les démarches de mission de Notre-Dame-de-Lourdes, c'est ce qui se vit à Lourdes, donc les messes, confessions, processions,
oui.
Tout ce lien aussi qu'on a avec les signes de Lourdes.
Oui.
Parlez-nous de l'atterrissage, puisque vous parlez d'avion, de tout cela, l'inculturation de ces réalités dans un pays comme le Cameroun.
Voilà, par rapport à tous ceux qui s'organisaient sur place, nous avons donc proposé justement le canevas de ce que nous appelons ici les gestes de Lourdes, c'est-à-dire la journée à Lourdes qui est faite de messes, de confessions, de processions, de gestes de l'eau et autres. Et donc, nous avons proposé à tous les organisateurs locaux ce canevas générique, mais en leur disant que nous ne vous l'imposons pas. Parce qu'il faut permettre à un peuple de vivre pleinement ces moments-là aussi, avec leur habitude culturelle et cultuelle, et surtout par rapport à ce que vous appelez si bien l'inculturation. Et ce qui s'est passé, ce que j'ai découvert, c'est d'abord le rythme de la journée, c'est-à-dire tous les arrêts étaient centrés entre 18h et 6h, ou 18h et 8h, parce qu'en Afrique, on a l'habitude de la veillée qui va de la tombée du jour, de la tombée de la nuit, je crois bien, jusqu'au lever du jour. Donc ça aussi c'était une épreuve pour moi de devoir vivre tous ces moments, parce que parfois tu te retrouvais à confesser à minuit, à 1h du matin, selon l'organigramme qui a été fait. Et puis ces veillées, ces moments ont aussi été concentrés, et ça aussi c'est lourd, sur le malade. Beaucoup de curés et recteurs de sanctuaires ont profité de cette présence pour faire les messes des malades. Donc, généralement, à 18, on faisait d'abord une messe d'accueil, après d'autres, la catéchèse et tout. Et ça aussi, je dois l'avouer, beaucoup ont préféré que ce soit toujours moi à véhiculer la catéchèse et le message de Lourdes. Mais généralement, autour de minuit, 1h, 2h, 3h du matin, il y avait la messe des malades. Le curé, il faisait cette messe et il profitait pour prier pour les malades, pour bénir les sacramentaux, faire l'imposition des mains. Et c'est généralement là qu'on insérait le geste de l'eau, vous voyez, qui devenait aussi, voilà, un rite en vue de la prière pour la guérison. Donc je dis, oui, on n'est pas parti avec un chemin posé et imposé, non. Il y a vraiment eu cette largesse de chaque pasteur propre d'élargir à ce qu'ils aiment et ce qu'ils savent faire. Mais surtout, la synthèse que j'ai vue, c'est la concentration sur les malades. Et c'était quelque chose de très fort spirituellement.
La Vierge a dit à Lourdes, allez boire à la source et vous y lavez. Et depuis, les foules ne cessent d'aller boire à la source et de s'y laver.
Mmh.
Dans la dernière phase de cette émission, Père Manuel M. Vaumont, nous allons peut-être essayer de donner à comprendre comment on peut organiser une mission Notre-Dame de Lourdes. Parce que parmi ceux qui nous écoutent ou nous voient,
oui,
certains se disent, bon, comment on fait? Est-ce que c'est compliqué? Peut-être pouvez-vous prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Cameroun. Comment, vous nous avez dit comment cela a été initié, mais ensuite, comment très concrètement ça peut se mettre en œuvre?
Alors, pour organiser une mission Notre-Dame-de-Lourdes, c'est on ne peut plus simple, parce que c'est la volonté même de Lourdes d'aller vers les autres, étant donné que, voilà, tout le monde ne peut pas venir à Lourdes. Mais c'est une mission d'église, ce n'est pas une mission isolée, c'est une mission d'église. Donc, tout ce qu'il faut, c'est une demande, soit d'un évêque, soit d'un curé, bref, d'un responsable de la pastorale qui fait une demande pour la venue des reliques. Et à partir de là, ou la personne elle-même, ou alors il nous indique une personne avec qui communiquer pour mettre en place tout ce qui est de l'organisation spirituelle et même logistique d'une mission. Quand je parle d'organisation logistique, ça veut dire, vous avez besoin de quoi sur place? Est-ce que vous avez besoin évidemment des reliques. Est-ce que vous avez besoin de la statue de Notre-Dame de Lourdes? Est-ce que vous avez besoin de l'eau? Et qu'est-ce que vous voulez faire? Bref, nous travaillons en symbiose pour mettre sur pied une organisation. Donc, le point de départ, c'est l'invitation. C'est l'invitation, la demande qui est faite par un responsable de l'église locale. Et puis, moi-même et mon collaborateur au bureau des missions, nous entrons en contact pour pouvoir établir tout ce qu'il faut pour faire vivre une mission. Il n'y a pas d'exigence particulière. Tout se passe dans cette communication entre ceux qui invitent et nous qui pouvons les accompagner dans cette planification.
La petite Bernadette qui rêvait d'être missionnaire et dont la santé n'a jamais permis qu'elle le soit, parcourt le monde aujourd'hui. Vous nous avez décrit la pérégrination au Cameroun, mais les missions peuvent avoir lieu en Angleterre, en Irlande, en Allemagne, en Amérique.
Les missions ont lieu partout. Actuellement, nous préparons deux belles missions, une au Canada, une en Argentine. Donc, pour dire que, voilà, les missions ont lieu partout, l'Italie, la France, voilà. Oui, la beauté, justement, du message de Bernadette et même de son témoignage, c'est cela. Je pense que on peut encore coller à ça ce que la Vierge lui avait dit. Je te promets pas le bonheur maintenant. Pour le moment, je vais pas voyager, mais dans l'autre vie. Mais cela part aussi du fait, comme je le disais tout à l'heure, de la place, du rôle et du significat de Lourdes pour le monde. Vraiment, ce n'est pas un leurre. Ce ne sont pas des mots vides. C'est pour cela que dans le monde entier, tout le monde veut recevoir ce voyage, cette présence de Sainte Bernadette et de Notre-Dame de Lourdes. Et donc, il suffit qu'il y ait cette organisation et cette communion, et je pense que tout est mis en place. Il y a des pays qui régulièrement en demandent, comme l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Les États-Unis, voilà, un grand voyage se prépare aussi là. Je pense qu'ils en auront pour 6 mois. C'est les États-Unis. Et donc, c'est une vraie joie de Lourdes. C'est notre joie de savoir que on n'est pas cantonné à Lourdes, mais on permet à ceux qui sont loin de Lourdes, géographiquement, physiquement, de participer aussi et de recevoir aussi cette grâce de Lourdes. C'est pour cela que ces missions ont été mises sur pied depuis 2017 et que jusqu'aujourd'hui, et ont connu, voilà, un certain essor pendant la période difficile de la COVID. Et après, cela a continué à travers ces voyages de Sainte Bernadette dans le monde entier. Et je pense que son message, puisque c'est un message qui touche, comme disait un certain pape, tout l'homme et tous les hommes, alors elle est la bienvenue dans le monde entier. Ce n'est qu'à nous-mêmes de travailler pour que ce message soit ainsi porté.
Merci beaucoup, Père Emmanuel.
Merci à vous et c'était un grand plaisir.
C'était une joie de vous entendre témoigner avec tant de cœur sur cette mission au Cameroun et toutes les missions qui sont organisées à travers le monde grâce à la pérégrination des reliques de la petite Bernadette.
Oui, si vous permettez, je pense que c'est un lieu de dire merci. Merci à l'évêque des Écas qui a bien voulu favoriser cette mission. Merci au nonce apostolique du Cameroun qui s'est impliqué. Il aurait voulu que la mission soit nationale, mais bon, elle a pu toucher 11 diocèses sur 26. Merci à tous ces évêques qui nous ont accueillis tous. J'ai en tête l'évêque de Bertois. On devait arriver à Bertois à 23h. Nous sommes arrivés à 2h40. Il était là, debout, devant la cathédrale à nous attendre. C'est des choses qui montrent aussi la communion de l'Église, et non seulement avec l'Église universelle, mais aussi la communion intérieure, parce que ça a été le lieu de beaux moments de vie ecclésiale locale. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir, Père.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Des dizaines de milliers d'Iraniens pour accompagner le cortège funèbre du guide suprême Ali Khamenei.